journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France, la cinquième étape remportée hier par l'Australien Simon Clark, 35 ans sur les pavés du nord de la France. On l'écoute au micro de SBS.
Yeah, I can't believe it actually. Even when I crossed the line, I didn't think I'd won. I was quite still a fair way behind Tarko in the final meters, and I just threw my bike as hard as I could, thinking it's now or never. You know, maybe I never get close to another stage like this. So, yeah, I honestly thought I didn't get it, but then they checked the photo finish and told me I'd won. So, yeah, it's. Can't believe it.
You're known as a pretty smart bike rider, so what was going through your mind in those last few kilometers?
Yeah, I mean, if you panic, you lose, and we saw that in the last kilometer today. You know, and Nielsen went first, Bosnagan went after him, Tarko went straight over the top of us when we caught, and I just waited and waited, and you know the important thing is to cross that line first. So yeah, I was lucky that things worked out well, but I also said I can't sprint for 800 meters, so I need to line this up and have the run at the line at the right time. So in the end, it worked out perfectly.
And I think everyone wanted to be in the breakaway today. How hard was it to get into that break early on?
Yeah, it was tricky, particularly with such winding roads in the start there. We were diving through towns and laneways, and it was really hard to even just get to the front of the bunch, let alone break away. But fortunately, there was that kind of big group and already with the three guys away, and then quite often when the peloton catches that back, everyone rests a little bit, and I just thought now's the moment to try and jump away, and fortunately it was, and we got a really nice group. That was a super strong breakaway. You see those names and they're class bike riders, so I knew that today we were going to go very close to staying away, if not going all the way.
Well, you absolutely nailed it. Congratulations and enjoy the win.
Thanks very much. Hello to everyone in Australia.
Et maintenant, le bilan de cette étape, de cette cinquième étape avec Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Il y avait de la poussière noire sur le blanc de son maillot et peut-être aussi des reflets jaunes sur les redoutés pavés du Nord qu'il découvrait. Tadej Pogacar n'a pas encore récupéré son maillot préféré, mais le passe-partout slovène, impressionnant d'adresse et de puissance, a gagné un peu de temps et encore plus de crédit.
Par chance, rien ne m'est arrivé aujourd'hui. Dans les pavés, c'est chacun pour soi et je voulais surtout ne pas perdre de temps. À la fin, j'en gagne même un petit peu par rapport aux autres favoris. Pas beaucoup, mais ça reste une bonne journée.
Une bonne journée pour Pogacar est en général une mauvaise pour les autres. Roglic, son rival numéro 1, est tombé, épaule touchée et 2 minutes de l'essai. Mais Vingegaard, Vlasov, Bardet et Godu ont limité la casse, 13 secondes seulement de perdu. Bref, le tour est encore loin d'être joué, nous dit le méfiant Mauro Gianetti, manager de Pogacar dans l'équipe UAE.
C'est vrai que Vingegaard, il a pratiquement rien perdu. Il y a Vlasov encore qui est là. Roglic, il a perdu un peu plus de temps, mais peut-être dans la position qu'il a, il peut jouer différemment dans certains quarts. Donc aujourd'hui, c'était important de ne pas perdre du temps. On a gagné une dizaine de secondes. Moralement, c'est bien, mais ça ne change pas grand-chose.
Un pas grand-chose qui veut quand même en dire beaucoup.
Ben O'Connor, un autre Australien, a eu quelques problèmes hier, des crevaisons, des embouteillages à gérer, et il est au micro de SBS à nouveau.
Ben, that was a pretty wild day. I think Australia is super relieved that you're in one piece, but it was a day about, you know, avoiding bad luck and limiting losses. Can you talk us through some of your moments of bad luck today?
Well, I just kind of had one. That was on the second sector I punctured. And yeah, the race started to split a lot. And then it was really, really hard to chase back. There was a million cars in between, too many motorbikes and TV cameras everywhere. And the TV camera would come in front of you, and then all of a sudden there's a big traffic jam. So it was a bit rough for us to chase, and yeah, we never could get close.
Did the team have a bit of a strategy before the race for moments such as this? And do you think as a team it was managed as well as you could have in the race?
Maybe we could have all stopped straight away, maybe. But I still had Geoffrey and Mika and Benoit for the start. And then eventually Ollie and Bob were with me until the very end, to be honest. They did pretty much the last 40k. It's just those two guys. So I can't thank them enough, really, because we stayed together and we just tried to do a team time trial, but once again we lost a lot of time on the pave with the cars.
I can see your fingers are all strapped up. What was the hardest thing you found about the cobbles today?
To be fair, it wasn't the cobbles. I honestly can't lie. It's just really bad luck.
I'm a bit sad and a bit disappointed. I feel calm for once because it's been stressful the last couple of days, but yeah, I'm just a bit sad because there wasn't a lot else I could have done today.
Well, thanks for your time.
Wout van Aert, le Belge, garde le maillot jaune donc pour au moins un jour de plus. La sixième étape, ce sera pour ce jeudi. On passe au tennis à Wimbledon. Chez les dames, l'Australienne Alia Tomljanovic s'est inclinée en quart de finale face à Elena Rybakina, la Kazakh, en trois manches. Simona Halep, la Roumaine, a battu Amanda Anisimova, l'Américaine, en deux manches. Ce jeudi, Once Jabeur, la Tunisienne, jouera pour sa première demi-finale en Grand Chelem contre Tatiana Maria, l'Allemande. Et puis hier, l'Australien Nick Kyrgios a battu Christian Garin, le Chilien, en trois manches pour une place en demi-finale. Une première en Grand Chelem pour l'Australien. Il est ravi.
An amazing atmosphere out here again. I just never thought I'd be at a semi-final of a Grand Slam. Honestly, I thought my ship had sailed, obviously. You know, I didn't go about things great earlier in my career and may have wasted that little window, but, you know, just I'm really proud of the way that I've just come back out here and with my team and just to be able to put on a performance.
Et puis hier, l'Espagnol Rafael Nadal, blessé, a éliminé Taylor Fritz, l'Américain, en cinq manches. Et pour le moment, on ne sait pas s'il va pouvoir jouer la demi-finale contre Nick Kyrgios. Cam Norrie, le Britannique, jouera en demi-finale contre Novak Djokovic qui a éliminé Jack Sinner, l'Italien, mardi en 5 manches alors que le Serbe était mené 2-7 à 0. Réaction de Novak Djokovic lors de la conférence de presse.
You know, I always believed that I could come back. I know that, you know, experience that I have could eventually prevail in this kind of situations.
On passe au foot. La CAN féminine se poursuit au Maroc avec quelques résultats d'hier. Victoire de la Tunisie contre la Zambie, 1-0. Le Cameroun et le Togo ont fait match nul, 1-1. Il y a eu la victoire du Sénégal mardi contre le Burkina Faso, 1-0. Hugo Moissonnier, RFI.
Une Sénégalaise est à terre, l'arbitre visionne le ralenti plusieurs fois. Et au bout du suspense, elle siffle pénalty pour les Lyonnes. Corcafal ne tremble pas, victoire et qualification historique pour les quarts de finale.
On est contente pour la victoire et tout.
C'est le Sénégal qui gagne toujours.
On aimerait aussi que les Lyonnes remportent la CAN. Les filles peuvent faire ce que peuvent faire les garçons. Tout à fait.
Oui, oui, ça m'a fait énormément de plaisir d'avoir gagné et d'avoir vu mon équipe de l'avant. Vous voyez les supporters qui sont aujourd'hui et ils se donnent à fond pour que l'équipe puisse gagner la Coupe d'Afrique.
Dei Diakaté, la numéro 10, première buteuse du Sénégal en Coupe d'Afrique, partage évidemment la joie de ses supporters.
On a beaucoup de travail aussi. La victoire vient naturellement. Ah, on est très contente, franchement. On est très, très, très contente.
Et là, on pense Coupe du Monde, là ?
Bien sûr. C'est ça notre objectif.
Et oui, en cas de victoire en quart de finale, les Lyonnes seraient qualifiées pour le premier mondial de leur histoire.
Les demi-finalistes de cette CAN de 2022 seront qualifiés pour la Coupe du Monde de 2023. Les deux vainqueurs des matchs du classement du 17 juillet disputeront des tournois de repêchage pour le mondial organisé en février 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis hier, le début de l'Euro de foot féminin en Grande-Bretagne avec l'Angleterre qui a battu l'Autriche 1-0. On revient sur l'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Explication de Martin Guez pour RFI.
Vous avez fait le taf, on est fiers de vous.
La méthode et le discours. Christophe Galtier a des cartes dans sa manche, des atouts comme sa poigne qui lui ont permis de mener Lille au titre de champion de France, comme on vient de l'entendre. Une recette qu'il compte appliquer au PSG.
Première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. Il n'y aura pas de compromis.
Je sais que j'aurai l'appui de la direction pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet.
Parce que c'est notre projet, dit Galtier, et qu'importe si certains trouvent le costume trop grand pour lui, Dominique Sévrac, consultant de Radio Foot, spécialiste du club parisien, n'est pas de cela.
C'est quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité. Il n'y a que Guardiola et Klopp pour entraîner des vestiaires avec des égos surdimensionnés. Bon, bah, on va vite faire le tour. Mais Galtier, il saura faire et les joueurs vont s'adapter à lui.
Et Galtier n'arrive pas seul. Les joueurs vont devoir aussi s'habituer au directeur sportif portugais Luis Campos, un duo mauvais flic dont le PSG avait visiblement besoin.
Le Paris Saint-Germain a été trop longtemps un club med où on faisait ce qu'on voulait. Galtier, il ne sera que la courroie de transmission de Campos. Campos, c'est quelqu'un d'autoritaire qui ne fait pas distinction entre un jardinier et une star. Et donc c'est ça que le PSG va découvrir. C'est plutôt la méthode Campos.
Une méthode dure et un discours musclé qui devront porter leurs fruits dans l'éternelle quête d'une première Ligue des Champions.
Les Jeux du Commonwealth de 2026 dans le Victoria, avec la date de la cérémonie d'ouverture confirmée pour le 17 mars au stade MCG. Les Jeux se tiendront aussi dans les régions rurales, dans le Gippsland, dans la ville de Geelong, Ballarat et à Bendigo. C'est ce qu'a annoncé la chef adjointe du Victoria, Jacinta Allen.
There's great excitement in regional Victoria, but before we get to the 2026 Commonwealth Games, we will be cheering our athletes along in Birmingham in just a few weeks' time. And so in just a few weeks' time, we'll see the Commonwealth's best athletes perform on that international stage.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.